Cette semaine, on va traiter ensemble le sujet de la Machloket, puisqu'on va passer par la paracha de Korach. C'est un sujet important. Au moins une fois dans sa vie, chacun d'entre nous, il a été confronté à une querelle ou à une discorde. Ça dépend comment est-ce qu'on décide de le traduire. Alors à ce propos, comme vous savez tous que, en bref, Korach, il décide de se révolter contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron, et contre Hachem aussi finalement. Et de là, il en résulte une catastrophe en Israël, beaucoup de tzadikim qui meurent, une épidémie avec encore beaucoup de morts. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu arriver, et aussi en quoi ça doit nous enseigner, comment est-ce que nous on peut éviter ce genre de problème. Alors ce marché dans Pirkei Avot, au Perek E, al Mishnah Yudzaïm, Kol machloket shi leshem shamaim sofa litkayem. Toute machloket, toute querelle qui est leshem shamaim, ça veut dire qui est fait pour Hachem, donc pour le bien, sofa litkayem, sa finalité, elle est d'être, de durer, de réussir, de construire. Veshena leshem shamaim, et si ce n'est pas fait leshem shamaim, ça n'est pas fait pour Hachem, ça n'est pas fait dans un bon esprit, en sofa litkayem, sa finalité, elle n'est pas de constater ou d'apporter du bien. Alors le Pirkei Avot il continue, il dit Ezoï Machloket chez les Shem Shamaim. C'est quoi un exemple de querelle qui était les Shem Shamaim? On a vu que des gens ont discuté mais que c'était pour le bien. Alors il dit c'est Shamaï et Hillel. Hillel et Shamaï, ils sont en discussion, souvent dans le Talmud, on les voit, des grosses discussions. Ça s'appelle Machloket les Shem Shamaim, c'est une querelle qui est faite pour le bien. Par contre, chez Nal et Shem Shamaim, c'est quoi? Zo Machloket Korach Vechol Adato. Ça, c'est la querelle, une discussion qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas faite pour, dans l'esprit de construction et pour Hachem. Alors ça, c'est Korach et toute sa bande, Korach Vechol Adato. Donc ici, le Pirkei Avot, il a bien voulu nous montrer la différence qui existe entre les différentes sortes de Machloket. Qu'est-ce que c'est une Machloket? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est Machloket? Bon, vous êtes obligé de traduire à chaque fois. Il y a un Ulpan qui est organisé le mercredi. Bon. Alors, Machloket, c'est une querelle. Comme ça, si j'oublie de le traduire, parce que je vais l'employer à peu près 11 743 fois dans ce cours, donc si j'oublie de le dire, vous le saurez tous, Machloket, c'est une querelle. Alors, donc, le problème, il est comme ça. C'est bizarre que quand les Chachamim, ils ont voulu donner la différence qui existe entre une Machloket et les Shem Shamaim et pas les Shem Shamaim, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, qui sont des très très grands tzadikim, et Korach et sa bande, qui a priori sont des gens qui n'ont rien compris au problème. Alors comment est-ce qu'on peut mettre deux personnes, deux groupes comme ça sur un même plan? Deuxièmement, on sait que la Machloket, la querelle qu'il y a eu à l'époque entre Moshe et Korach et ceux qui sont associés à lui, elle a eu des conséquences qui sont extrêmement graves. Comment est-ce qu'on peut comparer ça avec la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel qui pendant des dizaines d'années ils se sont querellés sur des sujets de la Torah qui n'ont pas eu les mêmes conséquences? Puisque dans la querelle entre Korach et Moshe Rabbeinu, déjà Korach est mort, Datan et Aviram qui étaient des prophètes sont morts, il y a eu 250 grands d'Israël qui sont morts avec eux, et à part ça il y a eu une épidémie qui a tué 14 700 personnes. Ça fait beaucoup de monde pour une querelle. Est-ce que nous, on peut imaginer que le fait même que les gens soient en querelle, ça puisse provoquer des conséquences tellement graves? Alors, il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été tellement meurtrière, cette Machloket. Et est-ce que toutes les querelles, elles sont meurtrières? C'est vrai qu'on voit des fois dans des familles, par exemple, moi souvent, j'étais invité à un mariage, je dis, bon, alors la famille du Khatan, par exemple, 1000 personnes. La famille d'Akala, 4. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre? C'est... Il dit, c'est une vieille querelle qui a démarré à Marrakech et qui s'est terminée à la Goulette. Alors le frère, il a truqué la sœur, elle a insulté l'autre, il a dit, attention, je viens plus à ton mariage, on se voit plus, hop, tac! Une famille de 1000 personnes, mariage, 4 personnes. Donc c'est vrai qu'une Machloket, une querelle, ça peut des fois avoir des conséquences néfastes. Il n'y a plus de famille. C'est le type qui dit, j'ai pas de famille. J'ai jamais vu les sœurs à mon père, j'ai jamais vu les sœurs à ma mère, parce qu'il y a 30 ans, ils se sont vexés et c'est fini. Mais là, on parle de conséquences graves. 14 700 morts. 250 grands, imaginez 250 grands d'Israël qui meurent. Dathan et Aviram, deux prophètes d'Israël et Korah. Ça fait beaucoup. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. C'est marqué dans le pasouk que Korah, il était voir Moshe Rabbeinu dans la querelle. Il lui a dit, c'est comme ça, Vayomu Alehem, Rav Lachem. Donc, Korach, il s'est adressé à Moshe et Aaron, il leur a dit, Rav Lachem, ça c'est beaucoup pour vous, ça suffit pour vous. Ki kol ha'eda kulam kedoshim, car toute l'assemblée d'Israël, c'est tous des saints. Ou betocham Hashem, et Hashem est parmi eux. Ou madoua titnasu al kehal Hashem. Et pourquoi est-ce que vous, vous vous êtes élevé au-dessus du peuple de Dieu? Ça vient. C'était quoi l'argument maître de Korach? Mais dis-moi, elle est un peu facile l'histoire. Dieu il vient, il se révèle, d'accord. Après, toi, Moshe Rabbeinu, tu deviens le roi. Aaron, grand prêtre, c'est ton frère. Les enfants de Aaron, remplaçants du grand prêtre. Dis-moi, ça sent un peu mauvais, non? Ça fait protection. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça serait vous les grands et nous les petits? Ça y est, voilà, maintenant il y a la noblesse. Ouais, et il y a le peuple. Pourquoi? La matitnas ou alke al Hashem. Pourquoi vous vous êtes mis au-dessus du peuple? On est tous égaux. Ça c'est l'argument de Korach. Il a dit, mais on a tous entendu Dieu. Dieu nous a parlé à tous. Dieu nous a donné la Torah à tout le monde. Alors comment ça se fait que maintenant vous, vous êtes devenu le grand tzadik, et son frère le grand tzadik, et son petit-fils le grand tzadik, et nous alors? Ça c'est l'argument de Korach. C'est un bon argument, n'empêche. Oui ou non? Vous comprenez, imagine. On est tous dans la même synagogue, et puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, ah, c'est moi le grand rabbin. Tu dis, oh, oh. Et mon cousin, c'est le vice-grand rabbin. Et mon neveu, c'est le vice-vice-grand rabbin. Et mon petit-petit-neveu, c'est le trésorier. Lui, c'est vicieux, grand rabbin. D'accord? Alors tu vas dire, comment ça se fait que tu distribues les rôles, là? Mais qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, l'argument en soi, il ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit, Korach? Il dit, attends, je ne comprends pas. On a tous entendu la voix de Dieu, hein? On a tant pu participer à la révélation de Dieu. Alors pourquoi est-ce que toi, tu t'élèves au-dessus de nous? Mais attends, excuse-moi. C'est vrai que tout le monde a entendu Anochi Hashem Elokechem, Asherotzefi Etrem Veres Mitzrayim. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est vrai. Tous les bénis d'Israël ont entendu le premier commandement de la voix d'Hachem. C'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais ils sont tous morts. Quand Dieu il a prononcé les commandements. Dès qu'il a dit le premier commandement, tous les bénis d'Israël sont morts. Tous. Sauf Moshe Rabbeinu. Tous ils sont morts. Parce que c'est insupportable. Un homme, il ne peut pas vivre. C'est marqué dans la Torah. Lo yarini adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Parce que Dieu, c'est l'origine de ton âme. Donc la proximité avec Dieu, ça veut dire la mort. Donc quand Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une révélation physique, entre guillemets, de son être, qui est insupportable pour un homme vivant. Donc automatiquement, le fait de l'entendre, ça provoque la mort. Et il fallait qu'on te fasse ressusciter pour que tu continues à entendre la voix de Dieu. Moshe Rabbeinu, lui, il l'écoutait, ça lui faisait rien. T'as pas senti la différence? Est-ce que t'as pas senti? Ouais? C'est incroyable! T'as pas senti la différence? Imagine, c'est comme si toi, tu vois Carl Lewis. Tu dis, tiens, on fait la course tous les deux? Alors il dit, à genoux ou debout? Tu discutes pas avec lui, non? Est-ce que tu vas faire des maths avec Einstein? Tu dis non, ça va. Même mort, t'oses même pas. Même mort, on sait jamais. T'oseras jamais. Alors dis-moi toi, t'as pas vu la différence entre toi et Moshe Rabbeinu? Même si tu dis, mais on a entendu le premier commandement, mais oui, tu l'as entendu, mais t'es mort. C'est vous-même, c'est parti dans la Gemara, c'est nous-mêmes, les béné Israël qui ont abondi à Moshe Rabbeinu. Bon, ça va, c'est bon, Dieu existe, c'est bon. Maintenant c'est toi qui entends et tu nous transmets. Parce qu'on n'arrive pas à supporter. On ne peut pas supporter. on n'est pas à la hauteur. Alors comment l'argument débile, il peut venir maintenant et dire, et pourquoi vous vous êtes élevé au-dessus puisqu'on est tous égaux? Qu'est-ce que c'est égaux? Depuis quand on est égaux? N'existe pas ça. Pire encore. Et même si on va dire que l'argument il est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un rôle qui lui était pas dû, il a donné à un frère un rôle qui lui était pas dû, il a donné à ses neveux un rôle qui n'était pas dû, et dis-moi, et Dieu dans tout ça, il est dupe? Quand tu dis que Moshe c'est un escroc, tu dis que Hachem c'est un bleu. Parce que vous croyez que Dieu va se laisser faire, franchement. Et à Moshe, il a trouvé une affaire en or. Il a dit, il a réuni ses frères, il a dit, les frères, on va faire une carrière éclair. Grâce à moi, vous allez être les têtes du peuple. En 10 minutes, vous allez devenir tous des grands prêtres et des grands trucs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il dort. C'est-à-dire, toi, Korah, quand tu dis que Moshe, c'est un usurpateur, tu dis que Hachem, il se laisse faire. Ça veut rien dire. C'est doublement débile. Et c'est gros. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la notion de l'égalité, telle qu'elle s'est bien vendue en 1789, c'est une notion qui est pas fausse, qui est complètement débile. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement l'égalité c'est impossible, mais en plus, l'inégalité, c'est nécessaire. L'inégalité est nécessaire. Est-ce que vous me suivez? C'est pas que nous on dit, ouais mais pourquoi on ne serait pas tous égaux? Tous égaux. C'est vrai que c'est la France, la France est pays des droits de l'homme. Extraordinaire. D'accord? Donc c'est la France qui a donné la première, l'exemple, qui a créé la Constitution, tout homme né, il demeure droit et quoi? Voilà, égaux. Ouais. Ça veut rien dire. Tu sais pourquoi? C'est marqué dans le pasouk. Lo yirdal evyon minaharet. Il manquera jamais un pauvre sur la terre. On a besoin des pauvres, on a besoin des riches. On a besoin des intelligents, on a besoin des imbéciles. On a besoin des forts, on a besoin des faibles. Le monde, il est basé sur la contradiction. Donc on a besoin des deux. L'inégalité, elle est nécessaire parce que l'inégalité, elle est génératrice de dynamique, elle est génératrice d'évolution, elle est génératrice de différence. Qu'est-ce qui crée le mouvement? C'est la différence. Donc la différence, elle la faut. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Ah, ils disent égalité des sexes. D'accord? La vraie question, c'est pas est-ce qu'on doit être égaux ou pas égaux, c'est qu'est-ce qu'on perd à être égaux. Ce qu'on gagne, on sait. On sait que qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que grâce à ça, eh ben tu vois, une femme, elle peut être chef de chantier. Ouais, une femme grâce à ça, elle peut tenir un marteau-piqueur. Eh ben, ça valait le coup de faire la révolution. Vous comprenez ou non? Si une femme elle est égale d'un homme, et égale d'un homme, ça veut dire être un homme. Ça s'appelle pas l'égalité, ça s'appelle la disparition. Vous comprenez ou non? Égalité, ça veut pas dire moi je suis devenu un homme. Quel intérêt d'être un homme puisque tu es une femme? Oui. Et si tu dois sacrifier ta féminité pour être égal à l'homme, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun intérêt. Parce qu'un homme, il doit comprendre qu'il doit apprécier la féminité de sa femme, et la femme, elle doit apprécier la féminité, le masculin, de son mari. Donc ça rime à rien de chercher l'égalité. De la même manière, le pauvre a besoin du riche, c'est vrai. Mais le riche a besoin du pauvre. C'est comme ça. Qu'elle dit la Gemara, elle dit, il y a un goy, il a demandé à Rabbi Akiva, si Dieu il aime tellement les pauvres, alors pourquoi il a créé les pauvres? Alors il a répondu, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Alors nous on dit, mais pourquoi c'est moi qui suis pauvre? Ça c'est le problème d'Hachem. Mais qu'il faut des riches et des pauvres, tout le monde le sait depuis le feuilleton. D'accord? C'est comme ça. De la même manière qu'il faut des intelligents et des imbéciles. Comment les imbéciles deviennent intelligents? Parce qu'ils voient des intelligents. Ça les attire. Ah, pourquoi il y a des imbéciles qui se font avoir par des intelligents? Eh bien parce que ça les intéresse. Parce que quelque part, c'est sécurisant d'être dans un cocon qui s'écrit en deux lettres. D'accord ? C'est bien. Ça rassure. C'est pas possible. Tant qu'il y aura des imbéciles, il y aura des intelligents. Tant qu'il y aura des intelligents, il y aura des imbéciles. Tant qu'il y aura des intelligents, il y aura des intelligents. Tant qu'il y aura des riches, il y aura des pauvres. Tant qu'il y aura des grands, il y aura des petits. Tant qu'il y aura des faibles, il y aura des forts. C'est comme ça. C'est nécessaire. C'est une contradiction perpétuelle. Regardez par exemple. Un adulte, c'est un enfant qui est faux. Un enfant, c'est un adulte qui est faux. Il n'y a pas d'égalité. Tu dis, pourquoi on ne serait pas tous des adultes? Mais non. C'est parce qu'il faut, pour être un adulte, il faut être un enfant avant. Ça dérange personne. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Pourquoi les enfants ne seraient pas l'égal des adultes? Mais quel intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Puisque c'est des étapes nécessaires. C'est des étapes nécessaires. On a besoin de passer par les étapes. Et j'ai besoin de la contradiction. Le mou a besoin du dur. Le fluide a besoin de la structure. Tu dis, pourquoi on ne mettrait pas que de la structure? Ça n'a aucun intérêt, puisque un justifie l'autre. Pourquoi on ne mettrait pas que du fluide? Mais ça n'a aucun intérêt. L'arbre, il a besoin du tuteur. Le tuteur, il a besoin de l'arbre. L'eau, il a besoin de la terre, il a besoin de l'eau. Vous comprenez, c'est infini, ça ne veut rien dire l'égalité. L'égalité, ça veut dire qu'on va uniformiser tout. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de mouvement. Boum. Plus de mouvement. Parce que différence égale jugement, égale ambition, égale projet, égale évolution, c'est ça la différence. Mais pas de différence, pas d'ambition. Regardez, communisme, là on dit de toute façon, écoute-moi bien, que tu fasses 20 ans, que tu fasses 30 ans, de toute façon toute ta vie tu gagneras 3000 roubles. Ben le mec travaille plus. Il travaillera plus. Il travaille plus. C'est normal. Communauté des biens. Sa terre, c'est pas ta terre, c'est la terre qui appartient à tout le monde. Donc il ne veut pas travailler sa terre, donc il ne la travaille pas, c'est pas la sienne. Tu me fais tous égaux maintenant, d'accord. On est tous grandeurs, tous égaux. Et comme le vice, c'est la seule chose qui ne se partage pas, donc plus on est égaux, plus on devient vicieux. C'est incroyable, hein? Non. L'argument en soi ne tient pas la route. La vraie question, c'est pas est-ce que l'argument vraiment il tient pas la route. La vraie question, c'est s'il tient pas la route, comment ça se fait qu'il a été tellement bien avalé? Regardez en 1789, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, tout un peuple qui s'est levé, il y en a des centaines qui sont morts, des milliers, ils ont pris la Bastille, ils ont démonté pierre par pierre. Ça lève les masses, hein. C'est fort. Oh, tu te rends compte, t'étais là-bas en 1789, voilà, c'est pas le mondial, hein, c'est fort. Tout ça sur un truc faux. C'est faux, c'est débile. Ça commence même pas. Alors comment ça a pu soulever tellement les masses? Vous savez pourquoi? Qui a dit ça? C'est Hitler qui a dit ça. Hitler, il a dit un mensonge. Plus il est gros, plus il passe. Parce que plus il est gros, plus il est proche de l'imaginaire. Et plus il est proche de l'imaginaire, et plus les gens ils ont besoin de rêver. Et plus tu fais rêver les gens, et plus ils t'adorent. Quand tu dis, tu vas avoir une masse de pauvres, tu vas leur dire, voilà, demain vous serez tous riches. Oh l'autre, oh, Dallas en vrai. Oh ben, il plonge. Tu dis, mais arrête d'être débile, mais enfin tu crois quand même pas que je veux. Regarde, les riches c'est toujours une minorité. Si les riches deviennent la majorité, il n'y a plus aucun intérêt. À la limite, ça devient snob d'être pauvre. Tu peux pas, tout le monde ne peut pas être riche. Alors quand tu vas voir 3 millions de personnes et tu leur dis, vous allez tous être riches, ils sont brèves ou quoi les gens? Au pire, au maximum, ils auront les allocs. Mais riche, riche. Et là-bas, parce que ça fait partie d'un certain fantasme que chacun il espère accéder un jour. Et puisque ce fantasme-là, il l'a personnellement, même si on l'exprime au pluriel, lui, il l'acquiert au niveau personnel. Chacun il dit c'est pour moi qui parle le type. Vous avez compris, moi? C'est-à-dire que tout le monde a compris que tout le monde ne pouvait pas être riche. Mais chacun se disait c'est l'autre qui va rester pauvre. Et ça, c'est pas un réflexe d'égalité, ça. MOI, c'est pas un réflexe d'égalité. Regarde ce qui est marqué. Vous voyez, faut que je m'y retrouve. Ah oui. C'est marqué dans le Midrash, au Perek Zayin. Perek Gimel. Miyad Itrilou Sone Moshe Litgarot Bo Israël. Vermrou Moshe Mele. Regardez bien. Tout de suite. Les ennemis de Moshe Rabbeinu, ils ont commencé à faire la guerre contre Moshe, ils ont amené tout le peuple, ils ont dit, regardez, ils ont attaqué Moshe, ils ont dit comme ça.
Moshe, Beler, c'est le roi. Aaron, Achiv, Aaron, son frère, Kohen Gadol. Bene Aaron, les fils de Aaron, ce sont les remplaçants du Kohen Gadol. La Trouma, on la donne au Kohen. Maaser Rishon, on le donne au Kohen. Eskim Verba Matanot, les 24 prélèvements qu'on fait sur les animaux qu'on donne au temple, on les donne au Kohen. Attends, ça fait beaucoup tout ça, non? C'est que le Kohen, il est tranquille. Ouais, on lui donne la Trouma, on lui donne le Maaser. Quand on donne un sacrifice, on doit donner une partie au Kohen. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces avantages qu'ils ont les Kohanim? Miyad ikilu al Moshe Aaron. Tout de suite, le peuple a entendu ça, hop, ils ont été chez Moshe Aaron. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire tous ces avantages? En nature. Amar Rabbi Levi, de Otashaa Kines et Adato. Il dit Rabbi Levi, c'est à ce moment-là qu'il a réuni toute son assemblée. Bon, Korach. Il leur a dit, Irbitem, allez-nous, machou, yoter mishirbud mitraim, tov lanu tachadiad mitraim, noter tachadiadechem. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'il a dit, Korach. Il a dit, vous avez mis sur nos épaules plus lourd que ce que les Égyptiens nous ont fait. Alors c'était mieux pour nous de rester en Égypte. C'est incroyable. Et les gens, ils ont dit, ouais, il a raison, Korach, ouais, il a raison. Ouais, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, oui, pour comment ça se fait que les Kohanim, ils prennent la Trouma? Pourquoi ils prennent le Maaser? Attends, mais c'est écrit dans la Torah. Les Kohanim ne travaillent pas. Ils n'ont pas de terre qui leur appartient. Eux, ce qu'ils doivent faire, c'est servir Dieu du matin au soir. Et pour vivre, chaque Ben Israël, il va lui donner une partie de ce qu'il a. D'accord? Bon. La Trouma, c'est 1/60. 1/60 de ta récolte. Ça veut dire que quand toi, t'as 60 000 tonnes, ouais, tu lui donnes 1000 tonnes. Ça va pour toi? Il traite 59 000 tonnes. T'es jaloux du Cohen? Toi, pendant que t'es en train de labourer la terre, lui, il est en train de faire des sacrifices à Dieu. Toi, t'es en train de regarder la télé, il est en train d'étudier la Torah. Tu peux pas lui donner un 60e? Comment ça se fait qu'ils ont des avantages? Mais évidemment qu'ils ont des avantages. La Torah leur a interdit d'avoir la terre. Ils n'ont pas le droit d'avoir une terre. On a divisé en 12 tribus, eux, les Lévis, rien, zéro. Les Kohanim, ils viennent des Lévis, zéro. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils s'occupent de Dieu. Les gens, ils voient pas ça. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, ah, mais pourquoi il vient chez moi? Pourquoi il me prend le maaser? Qu'est-ce que je lui fais, moi? Je lui ai demandé des choses. Moi, je travaille la terre, et lui, il me prend le maaser. Ah, ben oui. Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il a soulevé le peuple à partir d'une chose qui est complètement incroyable. Et ça aussi, c'est ça la force de la marloquette. Quand quelqu'un, il développe un argument contre l'autre, il exagère toujours au niveau des adjectifs qui sont employés. Il crée une catastrophe, il crée un problème, il crée un malaise. Alors en vérité, il n'y a rien du tout. Comment tu peux comparer ce que les Kohanim ils vont faire subir avec ce que les Israël ils ont supporté en Égypte? En Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient moins importants que la terre glaise. On les tuait comme on voulait. On pouvait les faire travailler le jour et la nuit. On pouvait les prendre leurs enfants, les mettre à la place des briques. Et maintenant, tu compares avec ce que la Torah elle t'a dit, il faut que tu donnes. Au Kohen. C'est incroyable. Et les gens ils avalent. Pourquoi? Parce que tu prends des arguments forts. Tu dis aux gens, vous rendez compte ce qu'ils vous font. C'est pire que les Égyptiens. C'est-à-dire que c'est faux. Mais le mot égyptien pour toi, il sonne douloureux. Alors, c'est pareil dans la marloquette. Dans l'argumentaire de la marloquette, celui qui crée le problème, il fait toujours appel à des choses qui émotionnellement te touchent pour que toi, tu adhères à sa cause. Mais en vérité, ça n'a aucun rapport avec ta cause, ton émotionnel. C'est toi qui as un problème. Ça, c'est la première caractéristique. Que le Baal Amachloket, celui qui fait la querelle, première chose, il ment. Or, un mensonge, elle dit la Gemara, il ne pourra passer que s'il a un début de vérité. Donc, il y a un petit peu de vérité, et après, ça démarre. Juste pour t'accrocher. Juste pour t'intéresser. Et c'est normal. Puisque la seule manière d'atteindre quelqu'un, c'est toujours de lui donner ce qu'il a envie d'entendre. Donc, celui que tu veux faire intervenir dans ta marloquette à toi, dans ta querelle à toi, tu lui donnes un bout de vérité et après tu lui donnes ce qu'il a envie d'entendre. Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Ses intérêts. Alors donne-lui ses intérêts et hop, tu te les mets dans la poche. Comprenez ça? C'est comme les campagnes politiques. Si j'ai un type. Vous êtes chasseur? On va vous donner toute la France pour chasser. Oh. Oh. Même en plein Paris dans le métro, oui! On va lâcher des lapins dans le métro, oh! Vous n'avez pas où dormir, on va vous donner des logements. Vous n'avez pas de quoi manger, on va vous donner de l'argent. Oh, oh, c'est vrai? Non. Oui. C'est normal. Tu donnes au titre ce qu'il a envie d'entendre. Deuxième caractéristique, le Baal Mahloket, celui qui fait la querelle, quand tu veux régler le problème avec lui, il fait la sourde oreille. Regardez, c'est marqué. Kol advarim haile piyes Moshe le Korach ve'en at Moshe chez Shivodava. Il dit, tout ce qu'il a pu Moshe Ramelou, il l'a dit à Korach pour faire la paix. Et on n'a jamais vu que Korach lui a répondu. Les filles Shaya Pikar Benishato, regardez, parce que Korach, il était intelligent dans sa riche ou dans son côté rachat, il est intelligent. Ama. Il m'a animé Shivo. Korach, il a dit, si moi je lui réponds à Moshe Rabbeinu, Yodéa, Anishu, Chacham, Gadol, je sais qu'il sait le grand Chacham. Il pas créé ni Bedvarim ou Mekelkeleni. Oui, il va réfléchir avec moi, il va discuter, et il va me casser mon argumentaire. Véani Mitratse, lo, Baal Kochi, moi je vais être obligé d'accepter son argument. Moutav, Shilo, Isaac, le vaut mieux que je ne parle pas. Celui qui fait la roquette, comment tu sais qu'il est de mauvaise foi? C'est pour que moi? Parce qu'il n'est pas prêt à confronter son point de vue, il n'est pas prêt à parler. Ça l'intéresse pas de parler. Vous n'avez pas remarqué ça? Il t'attaque. Après tu dis, viens, on discute. Ouais, de toute façon, je sais où tu vas en venir, toi je te connais, puis t'es vicieux, tu vas me rouler, tu vas m'embrouiller. Y a pas! Y a pas! Tu dis, mais viens, on discute. Quel est ton problème? Orgueilleux, t'es comment tu parles? Tu me regardes de haut. Je te regarde pas de haut, c'est toi qui te mets en victime, donc t'es bas. Moi je te regarde pas de haut. C'est toi qui as fait un bourreau de moi. Moi je suis pas un bourreau. Vas-y, t'es un bourreau. C'est facile de parler comme ça, c'est facile. Quand on sait pas ce que les gens y ressentent, eh ben dis-le. Ouais, c'est facile quand on sait pas ce que les gens y ressentent. Eh ben dis-le. Le mur. Le Baal Mahloket, il veut pas entendre. Parce qu'il sait très bien son argumentaire, il est fragile comme le cristal. C'est pourquoi. Parce que l'argumentaire, il est basé ou sur les intérêts ou sur la réflexion. Celui qui a un argumentaire qui est basé sur la réflexion, il n'a ni besoin de crier, ni besoin d'enrôler tout le monde entier, il sait qu'il a raison. Mais celui qui sait qu'il a tort, donc et pourquoi il a tort? Parce que son argumentaire, il est basé sur ses intérêts, et que les intérêts, c'est fragile. Mais fallait le dire que tu voulais de l'argent. Pourquoi tu nous prends la tête? Non mais c'est honteux. J'ai de l'ambition, et je voulais devenir quelqu'un de grand, mais je ne peux pas venir comme ça dans tout le monde et dire, voilà, je vais être grand. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 15 000 débiles, je les amène, je leur dis tous, allez, venez, on va leur montrer. Et après, quand on a tué les grands, on dit aux débiles, à votre avis, il faut mettre qui maintenant? Alors ils disent, oh ben toi ouais. La marquette. Ça veut dire que quand quelqu'un il veut vous entraîner dans une querelle, la vraie question c'est pas de savoir s'il a raison ou s'il a tort, c'est de savoir quel est le mobile du crime. Cherchez toujours quel est le mobile. Qu'est-ce qui te pousse toi? Toi le hnin de la famille, qu'est-ce qui te pousse maintenant à crier? Quel est ton problème? Parce que deux solutions, ou tu as raison et tu veux régler un problème, ou t'as tort et tu veux m'utiliser pour régler ton problème. Alors qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? T'as un problème personnel? T'es mal quelque part? Va aux toilettes, qu'est-ce que tu veux chez moi? Comprenez ou non? L'autre toujours, ouais, t'as vu ce qu'il m'a fait, puis je m'a pleuré en plein milieu, ouais, regarde, c'est pas possible. Oh là là là, avant de rentrer dans les émotions, attends. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est normal, je suis... Mais pourquoi? Bah écoute, t'es comme eux toi, t'es comme eux. Moi je veux bien, mais sur quoi? Je veux bien être comme eux, mais quel niveau? Jamais il te répondra. Jamais il te répondra. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que dès qu'il va commencer à mettre à nu le problème, il va s'évaporer le problème. Vous avez pas remarqué que les parfums sont dans des flacons pressurisés? Parce que quand on les met à l'extérieur, ils s'évaporent. Or plus il y a de la pression, plus tu sais que quand on va lâcher, ça va s'évaporer. C'est pareil, tu vois un type, je vais tuer. Tu n'as pas de problème, tu vas me tuer. Bon. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? Celui qui fait la marquette, c'est un enfant. pour continuer la marquette, il a besoin d'un enfant en face de lui. Mais si tu lui mets un adulte en face de lui, l'enfant. Donc il a besoin de ta surenchère à toi pour continuer la querelle. Donc si tu rentres pas dans la querelle, il est désarmé, puisqu'il n'a pas d'argument, il n'a rien à vendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la frustration. Si t'as enrôlé, il dit, tu vois, hein, je t'avais dit, hein. Et s'il ne peut pas t'enrôler, il dit, ouais, de toute façon, t'es comme les autres. Mais en vérité, ça n'a même pas commencé l'histoire. Il dit, mais je veux bien adhérer, mais sur quoi? Qu'est-ce qui va pas? Explique-moi le problème. Écris-le sur une page. Mais au moins quatre lignes. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Pour ça, toujours quand vous cherchez à faire la paix entre les gens ils disent, de toute façon, bon, de toute façon, c'est ridicule. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était complètement... C'est même pas... C'est vrai que ça fait 10 ans que ça dure, mais c'est complètement... Je veux dire, ça vaut même pas la peine d'en parler. Mais ça vaut la peine de se tuer pour ça. Pourquoi? Parce que l'argumentaire, il n'a jamais été dévoilé, puisque toute l'existence de l'argumentaire, elle tenait simplement justement dans le fait qu'elle n'était pas dévoilée. Mais dès qu'elle est dévoilée, elle s'évapore, il n'y a plus rien. Donc, deuxième caractéristique du Baal Mahoket, il refuse le dialogue. Les gens, ils croient qu'il refuse le dialogue parce qu'il est mal, parce qu'il est vexé. Il refuse le dialogue parce qu'il ne peut pas assumer le dialogue. Parce que dialogue égale confrontation. Confrontation égale coexistence. Or, lui, il a choisi l'option de la colère parce qu'il veut, il n'arrive pas à assumer la coexistence. Il faut quand même arriver à comprendre que vivre à deux, c'est dur. Parce que tu as tes différences, j'ai mes différences. Or, quand quelqu'un ne veut pas assumer la coexistence des différences, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la coexistence. Comment on appelle ça? Mahloket. Après, bien sûr, il faut argumenter avec des mensonges. Il faut entretenir avec de la haine. Mais au départ, c'est un problème de coexistence. C'est pour ça que la seule manière de casser la haine et de casser la Mahloket, c'est d'obliger l'autre à coexister. Vous avez compris, non? Tu lui prends les deux mains, tu regardes dans les yeux, tu dis, dis-moi ce qui va pas. Il est mort. Il est venu comme ça, comme un bulldozer, Rambo numéro 8. Tu lui prends les deux mains, il te regarde, il dit, c'est grave. Hein? Il t'est pas tué. Enfin, moi je dis ça. Hein? Alors, c'est comme ça. Et là, c'est marqué plus loin dans le Midrash. Amar Moshe. Au il velo ratsu lavo, puisqu'ils n'ont pas voulu venir. Ani alach eslam. Enseignement de Moshe Rabbeinu. Toi, tu t'adresses à celui qui fait la machloket. Alors, tu lui dis, bon, viens, on discute. Il ne veut pas venir. Toi, tu dois aller. Toi, tu pourrais dire, eh ben moi, puisque lui fait la tête, moi aussi je fais la tête. Je vais pas. Il fait la querelle, moi je fais la querelle aussi. Je fais pas un pas, je fais pas un pas. Non. Toi, ton devoir à toi, c'est d'aller. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que Rodef Shalom, un homme, il doit chercher la paix. Donc il faut aller régler le problème. Deuxièmement, parce qu'en n'y allant pas, tu travailles pour lui. Il a besoin de ça, lui. Il a besoin. Parce que pour pouvoir continuer à enrôler les gens, et pour pouvoir continuer à justifier sa querelle, il va dire, mais vous voyez bien que j'ai raison, puisqu'il vient même pas. Regardez, il vient pas. Vous avez compris ça? Donc lui, il coupe le contact, parce qu'il a rien à dire. Et à part ça, il coupe le contact, parce que ça lui permet de continuer à argumenter sur ton problème. Donc toi, tu dois faire l'effort. C'est pour ça qu'il est marqué, chez les mains, vaya comme Moshe vayelech el datam vaviram. Moshe s'est levé, Moshe Rabbeinu, d'accord? Le roi, donc c'est le chef suprême de tout le peuple d'Israël, 3 millions de personnes, il va lui-même, il va voir Datan vaviram qui crée la machloket. Eux, ils créent le problème, lui, il va les voir. Qu'est-ce qui est marqué? Keshira Woto, lorsqu'ils l'ont vu, ils trilou les Kharef ou les Gadef, ils ont commencé à le mépriser et à l'insulter. Moshe Rabbeinu. Vedatam va aviram yatsun et tsavim. Ce qui s'est marqué dans le pasouk. Et Datam va aviram, ils sont sortis debout. C'est-à-dire, ils sont sortis comme ça. C'est un problème. Attends, c'est Moshe Rabbeinu. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu baisses la tête, tu dis oui, Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qui va pas? Troisième caractéristique, le Baal HaMahloket, il vient jamais seul. Celui qui cherche la guerre, jamais vient seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrigade les gens. Il réveille les gens. C'est marqué dessus dans le Midrash. Toute la nuit, avant d'arriver, Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les Bnei Israël un par un. Et chez chacun d'eux, il a recommencé le même argumentaire. Et chez chacun d'eux, il a développé un argumentaire selon leur intérêt personnel de chacun. Pour embrigader. Mais pourquoi celui qui fait la marloquette, il a besoin d'avoir des spectateurs? Vous avez pas remarqué ça? Pourquoi? Pourquoi il attend qu'il y ait du monde? Pourquoi il fait ça en famille? S'il a un problème, et qu'il est vrai son problème, pourquoi il vient pas te voir à toi, dans le blanc des yeux, dans ton bureau, et te dit, voilà, je suis pas content de ça. Oui? Pourquoi il se met au monde? Pourquoi il se met un spectacle? Pourquoi il se met à crier? Vous voyez? Regardez-le! C'est lui! Je l'ai dit comment il va, regardez comment il réagit, regardez. Pourquoi il prend un témoin? Mais c'est quoi ton problème? C'est un problème, tu viens le régler. Donc ça veut dire que ton problème, il n'existe que dans ta capacité à créer chez les autres un malaise. Mais le problème en soi, il n'existe pas. Comprenez ou non? C'est comme le... Vous savez, il y a un phénomène psychologique. Vous êtes dans la rue, vous regardez dans l'air. Tous les types qui passent, ils regardent dans l'air. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous arrêtez sur un trottoir, vous regardez dans l'air. Chaque mec qui passe, il regarde dans l'air. Et moins vous êtes comme eux, plus ils vous regardent. Et plus ils vous regardent, plus ils sont comme vous. Moi déjà, quand je passe dans la rue, les gens, ils se retournent. Sauf aux États-Unis, c'est... là-bas, ils supportent la différence. Mais en France, c'est... Donc déjà que le type, il te regarde. Si en plus, il te regarde dans l'air, il regarde dans l'air. Alors, au début, il croyait que c'était Pavlov. C'est pas ça. C'est que les gens, ils sont embrigadés. Les gens, ils participent à quelque chose. Donc lui, à partir du moment où Korach, il arrive à les faire rentrer dans son calcul, donc automatiquement, chacun, il rentre à l'intérieur. Et le plus grave, c'est que c'est marqué dans le Midrash, que quand il allait dans chaque famille, il allait en chaque tente, Korach, pour chauffer les gens, pour faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, regardez ce qu'il disait. Il dit comme ça. Regardez bien. Et qu'est-ce que vous croyez? Que moi je fais ça pour moi? Pour être grand, pour ma grandeur à moi? Regardez bien. Il dit, moi je veux que la grandeur, elle soit sur nous tous. C'est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on peut dire une bêtise pareille? Et les types, ils disent, c'est vrai, il a raison. Pourquoi M. Rameno, il s'est mis le roi? Il s'est mis le roi d'Israël? Qui l'a dit? Est-ce qu'on a entendu que Dieu, il a dit, et maintenant, Moshe, tu es nommé roi? Alors Moshe Rabbeinu, il s'est nommé roi! Oui? Alors lui, Korach, il vient. Alors les Israël, ils disent, bon, écoute, nous, on l'aime bien, Moshe, il est sympa, il est gentil, c'est un sadique. Alors l'autre, il sent qu'il y a un malaise. Alors il dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous croyez que moi, je fais ça pour ma grandeur à moi? Korach. Je fais ça pour notre grandeur à tous. C'est joli comme argument. Oui? C'est pas mon intérêt à moi, c'est notre intérêt à tous. Oui ou non? Il est beau l'argument, oui? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais pourquoi Moshe il est roi? On va tous être rois. Mais il ne peut pas y avoir 3 millions de rois. Est-ce que vous me comprenez là? T'as une voiture, 5 passagers, tu mets 5 directions, 5 systèmes de direction dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe au premier virage? Elle se découpe en 5. Mais ça veut rien dire. Et comment ils ont prévenu c'est pareil? Tu vas chez les gens mais tu dis, pourquoi M. Rameno il va être roi? On va être tous des rois. Mais les rois de quoi? Mais ça veut rien dire. Il s'est marqué. Donc le fils a besoin d'embrigader, et ça c'est, rappelez-vous, c'est la troisième caractéristique de celui qui fait la querelle, il a besoin d'embrigader. Quatrième, c'est que celui qui fait la marloquette, qui fait la querelle, il est aveuglé par son problème. Même si vous lui expliquez, vous lui prouvez, vous lui démontrez, il est bouché. Comment ça se fait? Ça c'est fort. Parce que celui qui est dans la marloquette, dans la querelle, il va jusqu'à la destruction, hein, jusqu'à la mort, il ne fait pas grave. Même à la finale, au dernier bord, au bord du ravin, il va se dire, je sais que j'ai tort, et il plonge. C'est incroyable. Il demande les commentateurs, il dit, mais c'est quand même incroyable, parce que Korach, il était chacham, c'est connu, c'est un très grand chacham, Korach. Deuxièmement, il a entraîné avec lui 250 personnes qui étaient les Rachish Vatim, c'est-à-dire les grands de chaque tribu. 250! C'est énorme. Et tous ces gens-là, ils ont plongé. Alors qu'en plus, Moshe Rabbeinu, il les a prévenus. Il leur a dit. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il a tenté une fois, il a tenté deux fois, il a tenté trois fois de faire la paix, ils n'ont pas bougé. Il a appelé Datan Vavirab, Korar, impossible de lui parler. Les 250, il ne veut rien savoir. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ça va. Vous ne voulez pas faire la paix? Vous ne voulez pas faire la paix. Vous dites que moi, je me suis mis au-dessus des autres. Vous dites que mon frère, c'est moi qui l'a nommé de Kohen Gadol. C'est moi. Donc vous pensez que vous, vous pouvez être Kohen Gadol? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un test. C'est bien ça, un test, hein? On va faire un test. Démocratique. Demain, vous venez tous les 250, et on va faire la kétorette. C'est quoi la kétorette? C'est que vous allez prendre des encens. Vous savez, les 11 encens qu'on doit brûler en tant que mitzvah pour la kétorette. Vous allez amener votre poêle où on va mettre à brûler cette kétorette. Et chacun, il va amener son encens, il va brûler son encens. C'est bien, non? Puisque il n'y a que le Kohen Gadol qui peut faire ça. Et vous, vous dites que vous êtes Kohen Gadol. Eh ben, on va le faire. Regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Les Tichach, ils travaillent. C'est pourquoi il les a prévenus. Parce que c'est marqué Ve'aya Aish Asher Yifrar Hashem ou Akadosh. Parce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, chacun il va faire les kétorettes, chacun il va brûler l'encens. Regardez bien. Et l'homme, et il sera l'homme que Dieu aura choisi, ça sera lui le Kadosh, ça sera lui le Saint. Alors il dit le Midrash. Il dit, Vechi, En Nanu Yodim, Shemi Sheifrar ou Akadosh. Est-ce que, pourquoi Hashem il a dit, et celui que Dieu choisira, il sera Kadosh. Pourquoi il a dit ça, Moshe Rabbeinu? On sait très bien que celui que Dieu va choisir, il sera Kadosh. Pourquoi Moshe il a dit ça? Regardez bien. Amar Lahem, Moshe il leur a dit en vérité, Ariani Omer Lahem. Moi je vous dis, c'est tout selon que travaillez-vous, Benachatechem. Chamishim, Umataim, Ishatem, Makrivim, Mishe Yifra, Michem, Yetse, Vekulam, Ovdim. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Sachez une chose, les kétorettes, les encens, il n'y a que le Kohen Gadol qui peut la faire. Cette mitzvah-là. Maintenant, quand un autre fait la kétorette, il meurt. S'il n'est pas Kohen Gadol. Donc, il aura dit, Moshe Rabbeinu, je vous préviens, à Kadosh Baruch Hu, il va décider qui est Kadosh. Maintenant, dans tout le peuple, il peut y avoir qu'un Kohen Gadol. Donc, quand vous, les 250, vous allez amener votre kétorette, il y en a un seul qui va survivre. Les autres, les 249, ils vont mourir. C'est pire encore, parce qu'il y a Aaron plus les 250. Ça fait 251. Donc il leur a dit, Moshe Rabbeinu, vous voulez jouer les malins? Vous voulez faire les hommes forts? Vous voulez lui dire, ah bon, pourquoi est-ce que Aaron il est Kohen Gadol? Très bien, eh ben, vous voulez. Vous croyez que mon frère, c'est moi qui l'a nommé? Vous croyez que lui, il s'ajoute, il se prend pour un sadique? Vous croyez que lui, il s'est mis au-dessus de vous? Pas de problème, on va faire les kétorettes. Mais il les a prévenus, attention, hein. Les kétorettes, c'est la roulette russe. C'est la roulette russe, les kétorettes, vous comprenez? C'est un pistolet, il y a 250 balles dedans, et il y a 251 orifices. Donc t'as une chance sur 251 de sortir vivant des kétorettes. Il les a prévenus, Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, faites gaffe, les gars, c'est dangereux. Et chacun, il est venu avec sa petite kétorette. Je ne sais pas si vous sentez le niveau d'aveuglement, là. Vous comprenez ou non? Imagine, il y a 20 personnes qui rentrent dans la salle. Je leur dis, écoutez, les gars, il y a 20 verres, là. D'accord? Il y a 20 verres. Il y a 20 personnes. Il y en a 19 verres qui sont empoisonnés. Chacun va boire un verre. C'est bon? Et chacun il dit, oui, je vais boire un verre. Oui, je vais boire un verre. Je vais te prouver, moi. Tu dis, mais attends, je t'ai pas dit qu'il y en a un d'empoisonné sur 20. Je te dis qu'il y en a un qui n'est pas empoisonné. Ça veut dire que de toute façon, Shem, il a déjà dit dans la Torah qu'il y aura un seul Kohen Gadol. Donc, de toute façon, il y aura 250 morts. De toute façon. Alors comment ils ont pu amener la kétorette? C'est pourquoi? Parce que chacun, il pensait que c'était lui le Kohen Gadol. C'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais t'as pas peur? T'as pas peur? On est 250. Ça veut dire, pour des gens qui pensent qu'ils ont droit à l'égalité, Eux, ils pensent qu'ils ont droit à l'égalité. Et eux, ils pensent qu'eux, ils vont vivre et les autres vont mourir. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'eux, ils sont grands et les autres sont nuls. Si vous comprenez ça. C'est que le Baal HaMachloket, il se contredit à l'intérieur même de son argument. Puisque lui-même, il dit on est tous égaux, et lui-même, il se met en avant de tout le monde. Alors, si on est tous égaux. C'est ce qu'il a montré, mon cher Amélo. Écoutez, moi, je veux pas vous tuer. Moi, je veux seulement vous montrer une chose. Ce que Aaron, il a pris sur lui, c'est pas qu'il a décidé d'avoir gratuitement un club vacances pendant des années. C'est qu'il a accepté d'être Kohen Gadol. Mais Kohen Gadol, c'est un métier dangereux. Il faut être un kadosh. À l'époque du temple, une fois par an, le Kohen Gadol, il rentrait au Kodesh à Kodashim, il rentrait au Saint des Saints. Et là-bas, il devait faire aussi les Torahs, il devait faire des prières. Maintenant, le Kohen Gadol, il rentrait avec une chaîne au pied. Vous savez, il rentrait avec une chaîne au pied. Vous savez pourquoi? Parce que s'il avait une mauvaise pensée dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, il mourait sur place. Il fallait qu'on le ramène, parce que personne ne pouvait rentrer là-bas. En plein Yom Kippour, il fallait qu'on le ramène. Avec la chaîne, on tirait le cadavre pour le ramener. Ça veut dire quoi? Kohen Gadol, c'est un métier dangereux. Alors, imaginez que, à l'époque du deuxième temple, le niveau, il avait tellement baissé dans le peuple d'Israël, que les gens, ils achetaient la Keuna Gdola. Ils achetaient comme un titre. Vous savez, comme à l'époque, au Moyen-Âge, un paysan, il pouvait s'acheter la noblesse pour, je sais pas moi, 10 000 pièces d'or. Il achetait un titre de comtesse, ou la de duc, ou la de... Ouais. Alors imaginez qu'à l'époque du deuxième temple, un type, il pouvait s'acheter d'être Kohen Gadol. Alors pendant un an, c'est super, Kohen Gadol. Kohen Gadol, bonjour, c'est toi, Kohen Gadol. Mais, moi je pose une question. Ce type-là, qui a acheté la charge de Kohen Gadol, quand il arrivait la veille du Kippour, il devait quand même trembler. Ben non, il tremblait pas le mec. Il y allait. Il y va. C'est pourquoi? En français, on appelle ça une mytho. Il croit le type. Je vais rentrer. Je vais faire la avodat Yom Kippour, le service de Kippour. Je vais sortir et c'est tout. Mais non, tu vas rentrer et c'est tout. C'est fini. Mais comment quelqu'un il peut croire, c'est pareil. Est-ce que vous me suivez? Le Baal HaMachloket, celui qui crée la querelle, s'il va tellement loin dans la querelle, parce que lui il se traîne dans la boue, il se comporte mal en public, il insulte les gens, il montre sa vraie nature, il montre qui il est, il montre sa pourriture. Pourquoi il va tellement loin? C'est pourquoi? Parce qu'il est aveuglé. Il est aveuglé. C'est pas possible. Et aveuglé. Tu dis, mais tu sais, ça va te coûter plus cher que ça va te rapporter. Hein. Il est aveuglé. Il sort de lui. Il dit, oh là là, moi je vais leur montrer à tous la vérité, moi. Je vais dévoiler la vérité dans le monde. Attends, mon frère. Réveille-toi. Comprenez, l'autre, il a acheté une djellaba, il a acheté un foulard, il s'est laissé pousser la barbe. Après, il vient et dit, je m'appelle Baba Maurice. Donc si vous voulez une bénédiction, je suis prêt à négocier. Et Baba Maurice, mais enfin, c'est... la Kedusha, c'est pas une djellaba. La sainteté, c'est pas un foulard. C'est pas une barbe. Comprenez ou non? Moi, j'ai connu des gens qui étaient à l'école au Maroc avec Baba Salé. Ils étaient à l'école avec lui. À 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, ils étaient en même temps plus à l'école. D'accord? Oui? Ils croyaient pas. Ils disaient, oh, bah, salut, attends, je suis à l'école, attends. Oh, bah, salut, je suis à l'école, attends. Moi, je l'appelle Salé, hein, je l'appelle pas Baba, hein. Ils croyaient pas! Eux, ils comprennent pas. Tu vas pas Salé, c'est vrai qu'il était avec eux à l'école, c'est vrai. Mais depuis l'âge de 6 mois, son père, il emmène au Mikvé. Durant sa vie, il a fait au moins 100 fois le jeûne de Afsaka, ça veut dire il a jeûné pendant toute la semaine, de samedi soir jusqu'à vendredi soir. D'accord? il connaît toute la Torah, ça veut dire tout le Talmud, tout le Tosefta, tout ça, il le connaît par cœur. Les Sivrei Kabbalah, il les a étudiés toute la nuit. Le Gilui d'Eilu Hanavi, il l'a eu. Il voit les anges avec ses yeux. Et toi, tu te rappelles de monsieur Israël Abersera qui était avec toi à l'école à 13 ans. Mais c'est fini tout ça, c'est un extraterrestre maintenant. Il n'a plus aucun rapport avec toi. Mais quand quelqu'un, il a envie de ça, oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Parce qu'il croit qu'en 5 minutes, il peut devenir ce que l'autre il est devenu en 30 ans. Une fois quelqu'un il m'a dit comme ça, il m'a dit, amenez-moi une bouteille d'eau, moi aussi je vais faire une bracha. Déjà quand on te donne un verre d'eau, tu fais pas chez Aka. Et maintenant tu veux qu'on te donne une bouteille d'eau pour faire une bracha dessus. J'en fous les gens. Ils se rendent pas compte. Une fois je me rappelle. J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, tu vois, tel rave, c'est notre directeur, tel rave. Il m'a dit, quel rave, il était avec nous, en Algérie, il mangeait des crustacés. J'ai dit, bah, il voulait me choquer, il voulait me montrer, genre, tu vois, t'as fait tes chouvas avec monsieur, et ben ce monsieur, il mangeait des crustacés avec mon Algérie, voilà. Hein? Bon, moi, je suis pas tombé par terre, j'ai dit, bon. J'ai dit, mais il y a quand même une différence avec vous. Il m'a dit, ah bon, et laquelle? Il m'a dit, c'est que vous continuez à les manger. C'est pareil. L'aveuglement de la maroquette, l'aveuglement de la querelle, elle fait qu'un type, il peut se la jouer. Il peut croire qu'on est tous des frères, il peut croire qu'il peut se permettre n'importe quoi, il peut croire qu'il peut devenir Kohen Gadol, simplement parce qu'il a de l'ambition, il a de l'inspiration. Tu dis, ça n'existe pas, ça. Maintenant, si on va dire... Bon d'accord, on va dire, Korach c'est un grand baratineur, il a réussi à chauffer 250 grands, il a réussi à chauffer 14 700 personnes du peuple, d'accord. Mais franchement, lui-même, Korach, il savait que c'était faux. Est-ce que vous me suivez? Lui, Korach, il savait que c'était faux tout ça. Par exemple, Hitler, il dit la race supérieure, la race arienne, grand, blond, mais lui il est petit et brun. C'est un malaise, non? Il sent bien qu'il y a un malaise. Adolf, lève-toi, d'accord. Mais je suis debout, lève-toi. C'est pareil. Quand quelqu'un il croit dans quelque chose et qu'il s'invente un rêve dans quelque chose, alors il peut aller à l'aveuglement. Ah, il dit le Midrash, non, pas entièrement aveuglé. Pourquoi? Il dit le Midrash, comment Korach il a pu rentrer dans une chose pareille? Est-ce qu'il était bête? Alors regardez ce qu'il explique le Midrash. Il dit non seulement Korach il n'était pas bête, mais Korach il avait un très haut niveau. Il avait un tellement haut niveau, Korach, qu'il avait même la prophétie. C'est fort, hein? Korach, il avait la prophétie. Essayez de vous rendre compte que pour avoir la prophétie, il faut déjà passer par une vingtaine de niveaux qui sont déjà extrêmement élevés, que nous, on espère un jour arriver à la moitié. Donc c'est une grande personne, Korach. Et il avait la prophétie. Et par la prophétie, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que dans ses descendants, dans l'avenir, il allait avoir Shmuel, le prophète, Samuel. Et il a vu aussi que c'est marqué dans Tehilim, que Shmuel, Shakul, Kedegan, Moshe et Aaron. Que Shmuel, il vaut comme Moshe et Aaron. Parce que c'est marqué, Moshe, de Aaron, de Kohanav, ou Shmuel, de Koreshemo. Donc, Moshe et Aaron, avec ses prêtres, et Shmuel, avec ceux qui appellent son nom, le nom d'Hachem. Donc tu vois que Shmuel, il est aussi grand que Moshe et Aaron. Donc Korach, il a fait un calcul, il a dit, si déjà, moi, j'ai un descendant qui va s'appeler Shmuel, et que ce descendant-là, il est plus grand que Moshe et Aaron, et que ce descendant, il descend de moi, alors moi, c'est sûr que je suis plus grand que Moshe et Aaron. Un raisonnement. Deuxièmement, il a dit, une logique, la logique de la palisse. Si j'ai des descendants, je sais que je suis vivant. Donc je ne peux pas mourir puisque j'ai des descendants. C'est un bon raisonnement. Et ses enfants, ils étaient rentrés avec lui dans la marloquette. Ils ont fait avec lui la marloquette. Ils ont fait la guerre avec Moshe Rabbeinu. Donc eux, ils ont dit, ouais, on va faire la guerre, on va détruire Moshe Rabbeinu, on va se mettre à sa place. Hazak. Donc lui, il a dit, si, moi j'ai un descendant qui s'appelle Samuel, Shmuel, un avis. Donc c'est sûr que Mais le problème, c'est que lui, regardez bien, lui, Korach, il s'est pas rendu compte que ses enfants, en plein milieu de la machloquette, ils ont commencé à faire teshuva. T'as compris ça? Ils descendent du bateau. Donc effectivement, tu vas mourir, et tes enfants, ils vont faire teshuva. Ils vont pas mourir, et ils vont avoir un descendant qui s'appelle Shmuel. Regardez comment c'est marqué dans le Midrash, un langage extraordinaire. Et Char Agdoula Azo Atida la Hamod Mimedi Vanyoven. Il a dit Korach, est-ce que c'est possible que cette grandeur-là, qu'il va descendre de moi, regardez ce qui est marqué, il va descendre de moi Shmuel. Ve'arba Mishmerot Omnot Mibne Banav. Et il y a 24 groupes de Kohanim qui vont descendre de moi. Oui. Et tout ça, et moi je vais mourir, c'est pas possible. Donc c'est ça que je vais vivre. Regardez bien ce qui est marqué dans le Midrash. Velo Ra'a Yafé. Il n'a pas bien vu. Shebana va yu'osim teshuva, parce que ses enfants ils faisaient teshuva. Ve'omdin me'en. Et il va en rester. Et de eux ils vont venir tous ces descendants-là. Shmuel et les Kohanim. Ou Moshe, regardez bien. Ou Moshe Ayaroe Yafé. Et Moshe il voyait bien. Ça veut dire quoi? C'est que quand même quelqu'un, il va s'élever spirituellement, il va étudier toute la Torah, il va grandir dans les qualités, il va avoir de la Kedusha, il va avoir de la sainteté, et il va être prophète. Mais même quand quelqu'un il va être prophète, s'il n'a pas fait un travail d'épuration totale de son être, il risque d'y avoir un petit écart dans son périscope. Zélo aya roé yafé. Il voit mal. Comme c'est marqué, c'est marqué dans le Me'am Lo'ez, à propos de la Nevoa, il explique là-bas, il a dit chaque prophète, c'est un niveau de prophétie différente. Et chacun, il a une perception différente. Il y en a qui ont des sensations. Il y en a qui ont des images. Il y en a qui ont des images et qui ne les comprennent pas. Et qui n'ont pas les explications. Il y en a qui ont les explications mais qui n'ont pas les images. Il y en a qui ont les images et les explications. Il y a plein de niveaux de prophétie. Le problème, il n'est pas où tu arrives, le problème c'est d'où tu viens. En plus que Korach, c'est vrai qu'il a grandi, c'est vrai qu'il s'est élevé, mais il n'a pas épuré complètement sa personnalité. Donc quand il est arrivé au bout, son caméscope de l'avenir, il était un peu tordu. Velo aya roe yafé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était prophète pour voir que dans 10 générations, il va y avoir Shmuel HaNavi, mais il n'est pas assez prophète pour voir que ses enfants, ils font teshuva. C'est gros, ça, hein? C'est incroyable, non? C'est comme l'autre, il te dit, ouais, le 11 août, il va y avoir... Tu dis, mais est-ce qu'il va pleuvoir demain? Il dit, j'en sais rien. C'est marrant, non? C'est rigolo. Ça dépend des niveaux de prophétie. Et là, Korach, lo ra'a yafé. Il n'a pas vu clair. Maintenant, vous pouvez comprendre d'une manière. Ou il n'a pas vu clair, ça veut dire quoi? Effectivement, il n'était pas entièrement parfait, donc c'est pour ça qu'il a déformé sa prophétie, donc c'est pour ça qu'il a mal compris. Soit que son intérêt lui a bouché les yeux, et il a été aveuglé par son intérêt, et il n'a pas voulu comprendre que c'était sa fin qui était en train d'arriver là. Parce que sinon, comment quelqu'un il peut comprendre qu'il va, il amène... Il encourage l'équipe à amener les Ketorets, lui-même il va, il fait la guerre contre M. Rabéou, comment c'est possible? A l'inverse, lui M. Rabéou, il veut régler le problème de la marloquette. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle gentiment. T'as une querelle avec quelqu'un? Tu joues pas la surenchère. Lui, s'il il te dit des mots méchants, c'est parce qu'il a besoin, encore une fois, il a besoin que tu t'investisses dans ta colère. Il a besoin que tu fasses la surenchère, il a besoin que tu te bagarres avec lui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes calme. Tu lui parles gentiment. Tu expliques à la personne. Tu poses le problème. Je vais dire mieux encore. Tu reconnais tes torts. Et tu dis, mais attends, j'ai pas tort. Tu reconnais tes torts. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire quoi? Il dit à Rabbi Yochanan Halevi, quand quelqu'un il a un problème de querelle avec l'autre, même si au niveau intellectuel il a bien analysé, il sait qu'il a rien fait. Lui, quand même, au niveau personnel, entre lui et Dieu, il doit se demander pourquoi ça m'arrive un truc pareil. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi il vient chez moi? D'accord, c'est un brel, c'est un complexé, il est mal dans sa tête, il est mal dans sa peau. Il cherche une victime, il m'a trouvé moi parce que je suis gentil, il veut m'écraser. D'accord, d'accord. Mais pourquoi il vient chez moi? Je vais pas dire il a raison. Je vais pas dire maintenant je suis un martyr. Je vais pas dire maintenant il faut que je prenne sur la tête, c'est bien fait pour moi. Non, je vais me poser une question. Je vais me dire mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans la marloquette? Pourquoi je suis dans la marloquette? Qu'est-ce que je fais dans cette marloquette? Oui ou non? Il vient chez toi. Il dit ah, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu ce qu'il a fait? Toi tu dis attends, excuse-moi. Attends, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Je peux pas intervenir. Et si j'interviens, je vais rien arranger. Alors pourquoi tu m'en parles? Tu veux que j'adhère à ta cause? Ça change rien. Qu'est-ce que tu veux? Quand quelqu'un il est pas clair dans sa tête, il a besoin qu'on l'écoute. Parce que quand on l'écoute, il croit qu'il a plus raison. C'est la loi du pluriel. Plus on est d'imbéciles à s'écouter, plus on a l'impression de dire des choses intelligentes. D'accord? Donc le type, il va voir les gens, il dit, tu sais ce qu'il m'a fait? Tu sais ce qu'il m'a fait? Combien de fois les gens disent, bon, écoutez, je vous prends un témoin. Non, juste une anecdote. Non, je... Pas de shonara, pas de shalom, monsieur Rabin, pas de shonara. Je rapporte les faits. Moi, je dis, écoutez, monsieur, moi, quand j'ai une cloche devant moi, eh bien, Nara, vous teintez bien. J'ai besoin d'avoir le deuxième son de la cloche. Parce que des fois, ça change complètement le scénario. Vous comprenez, c'est comme les enfants, ils viennent dire, il m'a vu un foutier. Alors, t'appelles le petit frère, il dit oui, mais moi, il m'a jeté par la fenêtre. Madame Léha, t'as oublié de me le dire. J'allais te le dire. Alors, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans, ça va. Mais ils ont 34 ans, ils ont 35 ans, et voilà, ça c'est pas une crise d'adolescence, ça, c'est une crise de post-maternité. À cause de ça. Pourquoi? Et c'est logique. C'est quoi la querelle? La querelle, c'est un besoin d'exister qui est mal géré. Tout le monde a envie d'exister. Tout le monde a envie d'avoir sa place au soleil. Tout le monde a envie d'avoir un nom. Tout le monde a envie d'être remarqué. Mais non. Il y a des gens qui se donnent le temps d'avoir assez de valeur pour qu'on les remarque. Il y a des gens qui n'ont pas la patience de se donner le temps et qui se font remarquer. Chacun d'entre nous, il a un potentiel de querelle extraordinaire. Parce qu'à qui on en veut en général? On en veut aux gens qui nous empêchent d'exister. Or moi j'ai envie d'exister. Et toi tu m'empêches d'exister. Pourquoi, par exemple? Parce que tu parles bien, par exemple. Parce que tu es beau. Parce que tu prends de la place. Parce que t'es équilibré. Ça m'énerve que tu sois équilibré. C'est pourquoi? Parce que je suis pas équilibré. Alors moi j'ai l'impression que quand je suis à côté de toi, on voit tout de suite que je suis naze. Alors moi, je veux te noircir aux yeux des autres pour que les autres croient que je suis bien. Ça s'appelle Amegadel et Atzmo Al-Kalun Havero. Celui qui se grandit sur la honte de son prochain. Alors c'est très grave. C'est pas bien du tout. D'accord. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi il fait ça? C'est ridicule. Par exemple, tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, voilà. Tu sais ce qu'il a? Il est nul. Tu sais celui-là, il est nul. Tu sais celui-là, il est encore plus nul. Et tu sais celui-là, il est encore plus nul. T'as vu? Alors, si l'autre, il est intelligent, il va dire, mais alors, t'es le roi des nuls. Pourquoi t'as besoin que les autres soient nuls? Si t'es bon, on le fera. On l'aurait su. Et si t'es mauvais, bah, tu fais partie du troupeau, si tu veux. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un crée un mouvement dans l'espace, la vraie question c'est toujours pourquoi tu le fais. Si tu commences par juger les autres, c'est que tu as un problème de jugement. Qu'est-ce que t'as besoin, toi? Celui-là, il est pas bien. Celui-là, il est nul. Celui-là, je le connais. Ah, celui-là, j'ai entendu quelque chose. Hein. Je sais où il en est. Il y a des gens, ils ont des dossiers sur chacun. Et quand tu leur dis, tu pourrais me parler de toi? Pudeur, intimité, valeur, cachée, mal démoulé. Ah oui, il y a des gens qui sont tellement mal déboulés, t'as l'impression que la majorité du gâteau est restée dans le moule. Ça veut rien dire. La querelle, c'est un désir d'existence qui est mal géré. Donc il a envie d'exister. En plus qu'il a envie d'exister et qu'il n'a pas envie de se casser la tête à passer par une étape normale qui s'appelle de prendre de la valeur et qu'il est pressé d'avoir de la valeur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il éclate. Parce qu'en éclatant superficiellement, il a l'impression qu'il a créé un décor qui s'appelle « Je suis grand et je suis fort ». Or, puisque lui, son désir, c'est d'exister, tu sais comment tu vas arrêter ta colère? Comment tu vas arrêter ta querelle? Tu sais comment tu vas faire? Eh bien, tu vas lui donner le droit d'exister. Tu vas lui dire, mais je t'écoute, tu m'intéresses, explique ton problème, assieds-toi. Tu veux exister? Mais existe! Tu croyais que ma grandeur, ma valeur, ma beauté, ma luminosité, elle t'empêchait d'exister? Mais pas du tout, regarde, je m'assois avec toi, je te tends la main. Tu viens m'insulter, je te donne à manger, c'est pas mieux. Hein? C'est pour ça que ça le calme. Et si c'est sincère, ça le calme. Si c'est pas sincère, ça l'enflamme encore plus. En plus, il te moque de moi. Tu te fous de ma tronche. Ouais. Mais si t'es sincère, vraiment dans ton cœur, t'as compris que le mec, il a un malaise. Pourquoi il crie maintenant? Qu'est-ce qu'il a? Il a un malaise. Alors tu lui calmes son malaise. Excuse-moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Je prends trop de place dans ta vie, je sais pas. Tu veux que je sois un peu plus nul pour que ne pas te choquer? Pas que les gens, ils sentent la différence. Les gens sont énervés par la perfection, puisque la perfection, c'est le miroir de la remise en cause. Maintenant, il y a deux catégories. Il y a des gens qui veulent être parfaits, ça ne les dérange pas que les autres soient parfaits. Il y a des gens qui veulent être parfaits, mais qui ne veulent pas se donner les moyens d'être parfaits, alors ça les dérange que les autres soient parfaits. C'est pour ça que ces gens-là, ils s'entourent d'imbéciles. Parce qu'au milieu des imbéciles, ils ont toujours le dernier mot, vu que l'autre, ils n'ont pas le premier. C'est facile d'avoir le dernier mot avec des sourds-muets. Comprenez ça? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On s'entoure des gens qui on sait très bien qu'on ne risque rien de chez eux. C'est la même chose avec des gens de ta valeur. Ah non, non, non. Anava, anava. Moi, je me rappelle, dans une synagogue, il y avait un type. Il faisait la maroquette, il a fait vider le rabbin, il a fait vider le... Il faisait genre... il a cassé toute la synagogue. Sous prétexte religieux. Alors que lui, savoir, il était taillé, mais pas dans les deux sens, d'accord? Mais le même type, quand il partait dans un milieu vraiment religieux, où il y avait vraiment des gens qui savaient étudier... J'ai rien à dire. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Oh là là, quelle prière! Oh là là! Quand il était entouré d'ignorants, il avait toujours quelque chose à dire. Oui, mais c'est pas comme ça, je sais pas. Mais quand il était avec des connaisseurs, que de choix. Tu te calmes. Pourquoi? Parce que les tentatives d'existence, c'est toujours envers les gens que tu as l'impression que de toute façon, tu vas plus exister qu'eux. Mais si quelqu'un il est complètement sublimé par l'existence de l'autre, par exemple, jamais un type il va se quereller avec Baba Salé, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu engages un combat, c'est parce que tu dis toujours, bah, peut-être ça va marcher, peut-être ça va perdre. Mais j'espère bien que ça va marcher. Mais jamais tu vas monter sur un ring, d'accord? Et tu dis, moi j'ai vu 3 matchs de boxe. Ouais, j'en ai vu trois. Tu montes sur un ring et il y a Cassius Clay en face. Ouais, tu vas te battre avec lui? Tu vas te battre avec lui. 2800 kilos de pression. Au point droit. Il ne va pas te frapper, il va poser son poing sur ta tête. Il va le poser. Et rien que ta peur associée avec l'intensité de sa colère contenue, elle va fissurer ton crâne. Je peux partir maintenant? Oui. C'est pas possible. tu commences même pas avec lui. Donc la querelle, elle est toujours en fonction du développement d'un certain fantasme qui est réellement lié à l'égalité. Parce que c'est vrai qu'au départ, tu crois qu'on est égaux et tu voudrais qu'on soit égaux. Mais pas l'égalité dans l'absolu, parce que tu sais très bien que l'égalité, ça ne veut rien dire et que l'inégalité, elle est nécessaire. Mais l'égalité dans le rêve, l'égalité dans le fantasme, l'égalité dans la manière de faire des raccourcis, l'égalité qui te permet de ne pas faire des efforts, l'égalité qui fait qu'on est tous des bons parce qu'on est tous des... Cette égalité-là, elle est interdite par la Torah. La Torah, elle veut la compétition. La Torah, elle veut la différence. La Torah, elle veut la confrontation. La Torah, elle veut la guerre. Positive, la guerre. C'est pas grave qu'il y ait des différences, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on grandit. Mais pourquoi la Torah dit toujours, regarde Moshe Rabbeinu, regarde Abraham, regarde Yitzhak, regarde Jacob. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on dit pas, regarde Jimmy, regarde William, pourquoi? Parce que la Torah, elle veut donner un moteur, la Torah, elle veut donner des directions, la Torah, elle veut donner envie d'évoluer, elle ne veut pas te détruire. Et c'est pour ça que c'est tellement grave. Si vous regardez bien, hein, c'est marqué dans le Midrash comme ça. Kol Amarzik Amarav, Kol Amarzik Bemachloket Overbelav, tout celui qui s'implique dans une machloket, dans une querelle, il transgresse un interdit de la Torah. Chez Neymar, Loye Kekorach ou Karadato, il n'y aura pas comme Korach et sa bande. Deuxièmement, c'est marqué Kol Aoser Bemachloket, tout celui qui aide dans une machloket, Akadosh Bokhu, mais Aved et Zichro. Tout celui qui participe à une querelle, Akzouchou, il efface son souvenir. C'est marqué, Amarabi, Berachia, oula, Kamakashé Mahloket, combien c'est dur la querelle. Chez Beddin, chez Ma'ala, Enkotsin, Elab, Mi Benyessin, Shalom Ma'ala. Le Beddin d'en haut, il ne juge qu'à partir de 20 ans. D'accord? Le Beddin d'en haut ne condamne pas les hommes qu'à partir de 20 ans. Le Beit Din d'en bas, il peut condamner à mort à partir de 13 ans. Oui. Mais dans la Mahloket, même les enfants, ils meurent. Même les bébés, ils meurent. Comment c'est possible? Alors pourquoi c'est comme ça? Dans Mahloket, il y a deux mots. Regardez, ça s'écrit même, chet, lamed, kouf, tav. Première lettre, dernière lettre, même tav, met. C'est-à-dire que la machloket, elle est entourée de la mort. Chelek, c'est une partie. Machloket, ça fait chelek mavet, un morceau de la mort. Deuxième explication, c'est que machloket, ça veut dire séparer. Mechalek, un chelek en hébreu, ça veut dire couper. Couper, c'est mourir. Pourquoi? Parce que dans une machloket, dans une querelle, d'abord, il y a l'union qui meurt. Deuxièmement, il y a le vaincu qui meurt. Troisièmement, il y a toute la projection de cette union qui meurt aussi. Donc, dans une marque, il y a toujours quelque chose qui meurt. Comprenez ou non? Que tu aies gagné ou que tu aies perdu, tu as perdu quelque chose dans la marque. C'est comme ça. Jamais la querelle, on peut sortir indemne d'une querelle. Si on est impliqué émotionnellement. Jamais on peut sortir indemne. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que comme toi, tu as voulu prendre un raccourci dans ta tentative d'existence. Donc automatiquement, tu vas prendre un mur dans la tête. Et ça fait très mal. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui pense qu'on peut descendre d'une voiture à 130 à l'heure. Il a le droit de rêver, c'est vrai. Il a le droit de rêver. Mais, il va se tuer. Parce que le parterre à 130 à l'heure, ça fait très mal. Pourtant, ça n'a pas l'air comme ça. C'est vrai, quand tu es dans une bonne voiture, tu ne te rends pas compte de la vitesse à laquelle tu roules. Mais quand tu descends, tu t'en rends compte. Il vaut mieux s'arrêter avant. Ici, c'est pareil. Tout le principe de la machloket, c'est le fait qu'on est coupé. Autant la Torah, elle demande à Avat Averiot, l'amour du prochain. La Torah, elle demande Ardout, l'unité. Et l'unité, c'est synonyme de vie. Autant la machloket, c'est synonyme de mort. Pourquoi? Parce qu'il faut bien arriver à comprendre que notre vie, elle est toujours contenue dans l'énergie qu'on arrive à puiser dans le fait qu'on côtoie les autres, par exemple. On va prendre un exemple, mais en minime. Vous êtes fort, d'accord? Et vous rencontrez quelqu'un qui est mal et qui fait la tronche. Eh bien, ça vous casse. Vous comprenez ça? Ça vous casse. Pourquoi? Parce qu'il a coupé le lien. Est-ce que vous me suivez? Vous allez me dire, là tu vas me dire, oui mais je suis mal. T'as pas compris. Si toi t'es mal, ouais, et moi je suis bien. Mais toi tu me montres que malgré que t'es mal, t'as envie d'être bien. Moi je vais ramer pour toi, je vais soulever la terre pour toi. Mais si toi tu me montres que t'es mal, moi j'ai plus de force. Maintenant on est deux mal, que ça sert. Donc, je peux te tuer en faisant la tête. Un. Je peux te tuer en te cassant psychologiquement. Deux. Je peux te tuer en te cassant physiquement. Trois. Je peux te tuer en te tuant. Mais à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis séparé de toi. Parce que si toi et moi on faisait un, jamais je t'aurais frappé. Donc si je t'ai frappé, c'est parce que je pense qu'on fait deux. Donc la mort, elle avait commencé au moment où j'avais pensé qu'on était deux. La rancune, elle vient de quoi? Parce que je pense que l'autre, c'est pas moi. La vengeance, elle vient de quoi? Parce que je pense que l'autre, c'est pas moi. La haine, elle vient de quoi? Parce que l'autre, c'est pas moi. Tout ce qui est lié à la négation, c'est toujours lié au fait qu'on est deux. Et l'amour, c'est toujours lié au fait qu'on est un. C'est pour ça que Ahava, l'amour, et Ehad, et un, c'est la même valeur numérique. Parce que quand la Torah dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça ne veut pas dire tu exprimeras un certain sentiment en direction de l'être qui est en face de toi. Pas du tout. Tu aimeras, ça veut dire tu feras un. Traduction. Tu aimeras égale tu feras un. Et toi tu dis mais je ne peux pas faire un, puisque l'autre c'est quelqu'un d'autre. L'autre c'est l'autre. Donc je ne peux pas faire un. T'as raison. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Parce que si tu le faisais naturellement, la Torah ne t'aurait pas donné une mitzvah d'aimer. La Torah ne demande jamais ce que tu fais naturellement, elle fait ce que tu ne fais pas naturellement. Donc, la Torah t'a dit, aime ton prochain. Pourquoi? Parce que toi, tu as une neshama, l'autre, il a une neshama. Quand on fait le lien des neshamot, c'est que ta vie à toi, elle vient de ta neshama. Sa vie à lui, elle vient de sa neshama. Si on s'aime, automatiquement, il y a contact des neshamot, il y a vie. Donc, la neshama de l'autre, c'est une source de vie pour toi. La neshama, elle s'exprime à travers le sourire, et à travers la force, à travers les mots, à travers les actes, à travers l'amour. Mais si on détruit la communion des actes, la communion des mots, la communion du sourire, la communion des neshamot, regardez bien, on s'est détaché de la source de vie. On s'est détaché de la source de vie. Vous prenez une prise, vous la mettez branchée avec une prise, et l'autre avec une prise, et l'autre avec une prise, et vous mettez comme ça 24 rallonges. Vous savez qu'à la dernière, il y a de l'électricité, non? Mais si vous débranchez une des prises, tu dis mais je m'en fous, les autres elles sont branchées. Oui, mais elle s'est coupée de la source de vie. Elle s'est coupée de la source de vie. Or comme elle s'est coupée de la source de vie, elle meurt. Mahloquette, c'est quoi? Tu te coupes de la source de vie. Essaye de comprendre. Hachem, il est source de vie. Le tzadik, il tend vers Hachem. Toi, tu tends. Le rave, il tend vers le tzadik. L'élève, il tend vers le rave. La femme, elle tend vers son mari. Les enfants, ils tendent vers leur père. Toutes les rallonges, elles sont raccrochées. Qu'est-ce qui fait Korah? Il vient, il dit, non, on débranche les rallonges. On met Moshe d'un côté, et nous de l'autre. Mahloket, Helek, Mavet. Automatiquement, 14 700 morts. 14 700 morts. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que nos âmes, elles sont liées les unes aux autres de manière transparente. Donc que je le veuille ou non, peut-être que mon âme à moi, elle est liée avec une neshama qui est à Petah Tikva, une autre qui est à Brooklyn, une autre qui est à Belleville. J'en sais rien. D'accord? J'en sais rien. Donc automatiquement, quand moi je fais une mitzvah, tous les autres de Brooklyn, de trucs, ils profitent de ça. Quand moi je fais une avera, tous les autres ils subissent ça. Maintenant si moi je me coupe de la source de vie, les autres qui sont des mêmes morceaux de mon âme à moi, ils subissent ça. Donc c'est vrai qu'il y a Korach qui était quelqu'un de grand qui a craqué. Il s'est coupé de la source de vie. C'est vrai qu'il y en a 250 qui étaient des gens grands qui sont coupés de la source de vie. Alors ça fait 14 700. Tu dis, mais quel rapport? C'est très simple, regardez bien. C'est pyramidal. Vous comprenez que c'est pyramidal. Korach, il était plus grand que les 250. Mais les 250, ils étaient plus grands que les 500 000. Et dans les 500 000, il y en avait 14 700 qui dépensaient de ces 250 qui dépendaient de Korach. Donc quand tu as coupé en haut, tu as coupé en bas. C'est comme si tu prends un type, par exemple, il vient au casino, puis il joue 100 000, 200 000, 400 000, 600 000, 1 million, 2 millions, 4 millions, 7 millions. Au bout d'un moment, tu vas le voir, tu dis, excuse-moi, c'est pas toi qui es patron de telle entreprise? Il dit, ouais. Il dit, mais t'as tellement de liquidités? Il dit, non, c'est la trésorerie que je suis en train de jouer. Il dit, mais t'as 4700 employés? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais quand tu vas, là, quand tu vas tout miser, là, et que tu vas perdre, il y a 4700 chômeurs qui vont sortir dans la rue. Il dit, oui, je sais. Mais 4700 chômeurs, ça veut dire qu'il va y avoir au moins 3500 dépressions. Il dit, oui. Il va y avoir au moins 2800 alcooliques. Il dit, ouais. Il va y avoir au moins 700 suicides. 2700 femmes battues. 12 000 jeunes délinquants. 7200 drogués. 24 millions de mobilettes volées. D'accord. Il dit, vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer à la roulette? Il dit, oui, oui, et alors? C'est exactement ça le problème. Parce que sinon on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est tellement grave? Je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a dans la mahloquette? Qu'est-ce qu'il y a dans la mahloquette? Qu'est-ce qu'il y a dans la querelle? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a dans la querelle? Toute la force des Israël, elle est dans l'union. Toute la faiblesse, elle est dans la désunion. C'est le travail. C'est pour ça qu'Amalek, il rentre. Il rentre à l'intérieur. Il rentre. Il rentre comme ça. Il fait des petits signes de loin. Après, il fait des sourires. Après, il vient ta belle-sœur. Il rentre, doucement. Et il te sépare. Parce que tu dis, écoutez, moi, je ne peux pas vous recevoir à table. Avec Christine. Alors, il te sépare. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Eh bien, je ne viens plus. Allez, Christine, on s'en va. Allez, on s'en va. On retourne en Bretagne. Là-bas, moi, ils sont accueillants. Les poissons. Bon. On ne sait pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ephraim ilamahazikimba. La Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui se renforcent à l'intérieur. Celui qui ne se ressource pas dans la Torah, de près ou de loin. Soit parce qu'il est le tzadik et il puise directement dans Hachem. Soit parce qu'il est le rave et il puise directement dans la Torah. Soit parce qu'il étudie la Torah et il puise directement dans la Torah. Soit parce qu'il est un élève et il puise directement dans son rave. Soit parce qu'il est shomer Shabbat et il puise dans le Shabbat. Soit parce qu'il va à la synagogue et il puise dans la synagogue. Mais si il puise nulle part, et bien automatiquement, et c'est pas une punition. C'est pourquoi? Parce que lui, il a fait une mahloquette. Mais pas une mahloquette, genre il est venu comme ça, il s'est mis à crier dans la salle, ouais, vous êtes tous savoir, vous êtes tous plantés. Non! Parce que lui, il s'est séparé. Lui, il a dit, non, moi ça ne me regarde pas, moi c'est ces histoires. L'opium du peuple, c'est bon pour les pauvres types, les gens qui n'ont rien compris. Moi, j'ai tout compris, moi. Moi, j'ai fait un DEA, moi, monsieur. Oui, un DEA. Oui. J'ai un doctorat. Quelqu'un m'a dit comme ça. Il me dit, mais j'ai un doctorat. Je comprends pas. Il me dit, j'ai un doctorat. C'est d'accord, hein. Mais, vous comprenez pas. Je vous dis que je suis diplômé de faculté. J'ai un doctorat. Je dis, ben d'accord. Ben, ça vous fait une prothèse de plus. Les gens, ils se... Il faut voir. Tu vas à Bnei Brak, tu vois des gens, ils ont fait 150 fois tout le Talmud, ils ont écrit 35 livres, ils ont éduqué 10 000 enfants dans leur yeshivot, ils ont élevé 1800 orphelins, ils ont marié 3000 personnes, ils ont fait 2800 shidduchim dans leur vie. Grâce à eux, il y a 5000 familles qui sont constituées en Israël. tu vas les voir, le type il te dit, j'ai fait ce que la Torah a demandé. Il va pas dire, j'ai un doctorat. Mais qu'est-ce que c'est un doctorat? C'est quoi? C'est un docteur en rave. C'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu as pensé à toi. Tu dis, voilà, moi, je suis un rave. Moi, je pense à moi. Moi, je suis un doctorat. Voilà. Donc, il dit, écoutez, j'ai pas de diplôme, mais moi, j'ai pensé aux autres. Alors, c'est pas diplômé, non. C'est zéro. Comprenez ou non? À quoi ça arrive? Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont doctorat sont des pauvres types. Hein. C'est le principe de mettre en avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave la culture. Toi, tu as pris 10 ans pour être spécialisé dans un certain domaine. Il y en a qui ont pris 10 ans pour devenir des hommes. Ils sont spécialisés en rien, mais ils sont bons en tout. Alors comment tu mesures? Comment tu mesures? Il fait exactement ça. Il dit, si toi t'as compris qu'en vérité le principe de la querelle, c'est qu'au départ, l'homme il a un désir d'existence. Et chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, il a un désir d'existence. Et souvent, c'est les gens qui ont été frustrés dans leur désir d'existence qui vont arriver à des niveaux de querelle, à un niveau de problème. Parce que la rébellion, elle se plante à l'âge de 7 ans, elle se nourrit entre 7 et 14 et elle explose à 17. C'est comme ça. Comprenez ou non? La frustration, il ne faut pas la calculer le jour même. Il ne faut pas dire, mais qu'est-ce que tu as, toi, qui est comme ça? Il faut se dire, attends, depuis combien de temps il mûrit? C'est pas toujours négatif. La querelle, c'est un cri d'alarme. La querelle, c'est un problème. La querelle, c'est un malaise. Parce que la querelle, c'est un désir d'existence, encore une fois, qui a été mal géré. Donc toi, à partir du moment où tu as compris que l'autre, il a un malaise et que tu veux l'aider à régler son problème, donc la première chose que tu dois faire, bien que c'est difficile, c'est la solidarité avec son désir d'existence. Je suis solidaire. Je reconnais, peut-être j'existe trop, peut-être je t'ai empêché de vivre, peut-être je t'ai écrasé. D'accord, tu as le droit d'exister, d'accord. Et la preuve, j'ai prouvé qu'on peut exister et toi et moi, et ça ne dérange personne. Toi, ta grande crainte à toi de croire qu'on ne peut pas exister si on est les deux, je vais te montrer qu'on peut exister. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont toujours amables. C'est extraordinaire. Il dit ils sont toujours modestes. Ils ne sont pas le type qui pourrait avoir de l'orgueil. Il est modeste. Vous comprenez ou non? Et l'autre, il n'a rien fait de sa vie, l'orgueilleux. C'est quand même incroyable. C'est très simple. Parce que l'autre, il a compris que pour que l'autre, il existe, il ne faut pas prendre de la place. Et la Torah, elle a demandé à chacun de respecter l'autre. Et respecter l'autre, ça veut dire donner à l'autre le droit d'exister. Mais il y a des gens, ils sont tellement grands que s'ils étaient eux-mêmes, tu ne pourrais plus exister. Tu ne pourrais pas exister. Imagine, tu veux dire un Dvar Torah devant Baba Salé. Tu dis, j'ai rien à dire. Tu veux dire une explication de la vie, t'as rien à dire. Tu veux parler de la sainteté, t'as rien à dire. Tu veux parler de Dieu, t'as rien à dire. Bon, alors tu veux parler du comportement, t'as rien à dire. T'as rien à dire. Si vous vous rendez compte que Baba Salé, qui est un de sa vie, qui a étudié toute la Torah, qui était Rosh Yeshiva au Maroc, qui a formé des centaines d'élèves, oui. Quand il est en Eretz Israël, on n'a jamais réussi à le faire dire un Dvar Torah. Jamais. On lui disait, est-ce que vous pouvez dire un Dvar Torah? C'est ce qu'il faisait. Il prenait un Tehilim et il lisait. Et quand il est mort, on a trouvé... Ah non, avant sa mort, il avait écrit 1000 pages de commentaires sur la Torah et ils ont été volés. Ils ont demandé, il a dit, je sais où ils sont, ils ont été volés. Mais ce n'est pas le moment qu'ils soient révélés. Il a dit, après ma mort, peut-être au Mashiach, on les retrouvera, on les éditera. Mais regardez la Hanava. Regardez la Hanava, comment quelqu'un qui pourrait écraser le monde, ouais, par son existence. Parce qu'il est naturellement extraordinaire. Et il a Hanava. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là, si toi, tu as un problème, tu veux une bracha, tu veux t'asseoir, je peux t'aider. Tu vas voir un type comme ça, tu dis, je peux faire une bracha. Tu dis, c'est pas moi qui fais une bracha, c'est la chaîne. D'accord? Et l'autre, il dit, oui, bien sûr, c'est 5000 francs. C'est le problème. Vous avez une carte bleue, une carte visa, pas de problème. On prend tous les modes de paiement. Facilité, CTLM, nous sommes agréés, voyez-vous, c'est marqué. Tu dis, oh, rabbin, vous avez fait marquer, j'ai une carte. C'est marqué grand rabbin, regardez. Grand rabbin. Oui, GR, ouais. Non, pas grand requin, c'est juste, non. C'est grand rabbin. Ouais, ouais. C'est pas possible. Il dit pourquoi ? Parce que cette anava là, elle permet à l'autre d'exister. C'est-à-dire qu'un jour, il a fait une chose extraordinaire. Il a demandé à chacun d'exister. Il a demandé à chacun de se réaliser. Malheureusement, il y a des gens en existant, ils prennent trop de place. Alors en même temps qu'il leur a donné le droit d'existence, en même temps il leur a dit, vous, vous avez une mitzvah d'être anava. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la anava, la modestie, c'est la clé de l'évolution dans la Torah. Donc ne pourra grandir que celui qui est prêt à sacrifier sa grandeur au profit de l'existence de l'autre. Et plus il est Anav, et plus il est grand. La preuve, ou Moshe Anav Mikoladov. Et Moshe Rabbeinu, il était plus Anav de tout le monde depuis la création. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que Moshe, c'est lui qui va transmettre la Torah. Or la Torah, c'est le plus grand vecteur d'existence qui existe. Donc puisque Moshe va devenir le vecteur de l'existence de tous les juifs à travers la Torah, donc lui, il doit être inexistant par excellence. Parce que sinon les gens, au lieu de faire la Torah d'Hachem qui a été transmise par Moshe, Moshe il est tellement grand que les gens ils vont faire la Torah de Moshe. Parce qu'il est trop grand. Vous comprenez ça? C'est ça le piège. Le piège du transmetteur, c'est de devenir gourou. Regardez Jésus par exemple. Il est tombé dans le piège. Ben ouais, il a étudié la Torah. Il avait une richesse de folie. Maintenant, il n'avait rien à vendre avec les Juifs, parce que les Juifs, ils connaissaient aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez les Goïms, il leur a dit, aimez-vous les uns les autres. Le Goï, la veille, il a mangé sa sœur. Ouais. Il dit, mais, c'est extraordinaire. Aimez-vous, attends, excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît, Jésus, parce que tu vas un peu vite pour moi. Aimez-vous les uns les autres. Jamais ils ont pensé. Eux, ils ont toujours compris, aimez-vous les autres. S'il y a aimez-vous les uns, les autres. Ça veut dire que je peux aimer sans risque d'être aimé. C'est extraordinaire. Hazak. Donc, c'était ce qu'ils ont appelé à l'époque la révélation. C'est la révélation. Mais c'est la révélation. Aimez-vous les uns les autres, mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, mais aimez-vous les uns les autres. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oh, mais c'est beau. C'est beau, monsieur. Tu rendras ce que l'on t'a prêté. Mais c'est beau. Tu ne te vengeras pas de celui qui t'a fait du mal. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est fabuleux. Mais comment ça s'appelle, le judaïsme? Mais ça existe déjà? Non, ça s'appelle la chrétienté. Oh, c'est extraordinaire, ça. Ça s'adresse à tout. À tous les chrétiens. Je ne sais pas dit. C'est beau, hein? C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus, c'est un homme qui avait besoin d'exister. Mais puisqu'il avait la tête un petit peu, comme elle raconte la Guémara, beaucoup d'histoires à son propos, qu'il était un peu zarbi, donc, il n'a pas pu le faire avec les bénis Israël. Parce que les bénis Israël, ils côtoyaient les tzadikim. Il a dit, attends, mon fils, t'es à côté de la plaque. Alors il a dit, bah, il faut que je trouve des nunuches qui vont suivre. Mais en vérité, au fond, c'était un désir d'exister. C'était un désir d'exister. Et comme ça, il explique le Rav Yerucham Alevi aussi, pourquoi est-ce que dans le Pirkei Avot, on a comparé, on a dit, voilà, qu'est-ce que c'est Machloket Shem Shamaim, Machloket Shem Shem Shamaim, Machloket Shem Shamaim, c'est Beit Hillel Beit Shammai, et Machloket Shem Shamaim, c'est Korach Ve'Adato. Il avait demandé le Rav Yerucham Alevi, il a dit, mais je comprends pas, comment est-ce qu'on peut comparer, mettre d'un côté Beit Hillel et Beit Shammai, que c'est des grands tzadikim, et de l'autre côté, on met Korach Ve'Adato, que c'est des grands Eshaim. Alors il répond une chose extraordinaire. Il dit, non, tu crois que Korach c'est un nul, tu crois que Korach c'est un pauvre, c'est faux. Korach c'est un grand tzadik. Korach, il avait une grande ambition. Korach, il voulait grandir. Il voulait grandir spirituellement. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas compris que l'origine de son ambition, elle partait d'une tendance qui était néfaste. C'était quoi? C'était la jalousie. Vous allez me dire, mais la jalousie, c'est positif. C'est marqué « Kinat Sofrim, Kone Chorma ». Ouais, la jalousie chez les Chachamim, ça permet d'acquérir la sagesse. Il dit oui, mais il y a deux formes de jalousie. Il y a deux jalousies. Il y a une jalousie qui est que pourquoi moi je suis pas comme lui. Et une autre jalousie qui est, pourquoi lui, il est comme ça. Dans la Torah, j'ai le droit de dire, pourquoi moi je ne serais pas comme lui. T'as le droit. T'as le droit. Parce que c'est une dynamique qui va t'obliger à exister. Mais si toi tu dis, mais pourquoi lui, il est comme ça. Pourquoi lui, il est ça. Comprenez-vous, hein? Pourquoi lui, il est ça. C'est pas ton problème, ça. Lui, il est ça, parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour. Si toi tu veux être comme ça, la porte, elle est ouverte. Mais c'est à toi de le devenir. Mais c'est pas en écrasant la grandeur de l'autre que tu vas devenir beau. C'est pas en salissant l'autre que tu vas devenir propre. C'est pas en appauvrissant l'autre que tu vas devenir riche. Jamais. Donc, le fond du problème, il était basé sur le fait que Korah, dans son être intérieur, même si c'était basé sur une volonté d'exister, mais la base, elle n'avait pas été analysée à 100%. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand toi tu crées un mouvement dans l'espace, quand toi tu crées une querelle, demande-toi, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Peut-être un des meilleurs moyens d'obtenir le même résultat. Et là, tu veux un raccourci. Tu veux acquérir sans les efforts. Tu veux tracer une ligne droite là où il y a des virages. Ça coûte cher. Parce que pour pouvoir faire ça, tu vas être obligé de te couper de la source de vie. Et ça, c'est synonyme de mort.